Bon, on vient de contempler la création, on vient de nous contempler nous-mêmes. Oh, que nous sommes une créature merveilleuse. Mais la réalité, je crois que nous la connaissons tous, la réalité, c'est que, eh bien, il y a eu la chute. Et la chute a eu des conséquences, pas uniquement sur l'humanité, comme on serait tenté de le croire, mais la conséquence sur toute la création. La création tout entière a été exposée à cette nature pécheresse. Mais on sait aussi, on en parlera un peu plus tard, que si l'humanité a des perspectives de salut et de résurrection, eh bien, la création tout entière a aussi des perspectives qui nous remplissent d'espérance. On voit que très vite, la chute engendre un désordre généralisé, au point qu'en Genèse 6, Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Toute chair, hein, pas uniquement la chair humaine. Hein, donc Dieu, l'Éternel, Genèse 6, verset 5, vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta même d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Alors l'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Donc vous voyez que la chute, le péché de l'humanité, a engendré la malédiction sur toute la création. Et écoutez la suite. L'Éternel était décidé à tout détruire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Noé qui a fait changer d'avis Dieu. Écoutez bien ça, c'est très important, parce que on verra ce soir et puis demain que on est, nous, dans un contexte où on aimerait bien que Dieu vienne un peu changer d'avis, puis nous épauler. Noé obtint la faveur de l'Éternel, et donc Noé marchait avec Dieu. Voilà, bon. Noé obtint la faveur de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il a obtenu que l'Éternel n'accomplisse pas son projet de détruire, et vous connaissez la suite avec le déluge. Faut-il rappeler ces versets très anciens qu'on a cités hier soir? On va le rappeler parce que c'est quand même le vraiment premier grand texte de la conservation de la nature dans l'humanité, enfin le premier texte qui expose le défi écologique, c'est-à-dire le lien entre la conduite des hommes et la destruction de la nature. Écoutez la parole de l'Éternel, donc c'est dans Osée 4. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de fidélité, pas de loyauté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure, tromperie, assassinat, vol, adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent dépériront, et avec eux les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Et dans ce grand texte de Romains 8, dans le Nouveau Testament, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Voilà donc les conséquences de la chute sur toute la création. Et malgré la chute, eh bien, le mandat est confirmé. Hein, à Noé, hein, Dieu bénit Noé ainsi que ses enfants, il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre », etc. Et puis le psaume 8, qu'on ne va pas relire puisque vous l'avez médité ce matin, enfin si quand même, quand je regarde les cieux, l'ouvrage de tes mains, etc. « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu ? » Tu l'as couronné de gloire et de splendeur, et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc on a la confirmation qu'après la chute, le mandat qu'on a décrit tout à l'heure était toujours d'actualité, et nous n'avons aucune raison de croire que la croix est remise en cause et la résurrection du Christ est remise en cause ce mandat. Alors, regardons un petit peu de façon très concrète, très terre à terre, comment se traduit cette chute au niveau du comportement de l'humanité vis-à-vis de la création. Alors là, je ne vais pas être tellement dans les versets bibliques. Hein. On va être très concret. Parlons déjà d'énergie, par exemple. Je vais prendre que des exemples, parce que... L'énergie. Vous avez entendu parler du réchauffement de l'atmosphère. Vous avez entendu parler de la pollution de l'air. Je vais vous donner un chiffre qui est très facile à retenir, mais qui donne une notion aussi de l'infini. Vous savez que l'unité des physiciens pour l'unité d'énergie, c'est le joule. Mais le joule, ça peut se transformer en kilowattheure ou ça peut se transformer en tonnes d'équivalent pétrole. Alors là, je vais vous parler en tonnes d'équivalent pétrole. Sachez que l'humanité, enfin la planète, toute énergie confondue, énergie fossile, énergie renouvelable, etc., toute énergie confondue, consomme 1 milliard de tonnes d'équivalent pétrole par mois, 12 milliards par an. Ça fait beaucoup, mais je vous demanderais même, ça fait un cube de combien de mètres de côté par combien de mètres de côté. Je crois que vous auriez un peu de mal à faire le calcul. Il y a un DEA de mathématiques, là. 1 milliard de tonnes, en supposant densité 1, donc 1 milliard de mètres cubes, ça fait combien de... Ça fait un cube de combien de côtés? C'est quoi? C'est 10 puissance 9? 1000, ça fait... Voilà, ça fait un cube, donc, de 1000 mètres... De côté. Ça, c'est la consommation d'un mois, hein, en tonnes d'équivalent pétrole de la planète. Alors, pour que ce soit un peu plus réaliste, ça fait quand même que 385 tonnes par seconde. Hein, vous voyez, ça fait 10 camions par seconde. Hein, vous voyez, quand vous avez un camion citerne, hein, il doit y avoir à peu près 40 tonnes dans un camion citerne chez vous, eh ben, ça fait 10 camions par seconde. Ça, c'est la quantité d'énergie que consomme la planète. Ce qui fait une moyenne par habitant, grosso modo, de 2 tonnes. Alors, il y a une répartition, vous en doutez, extrêmement inégale, on va y revenir. Et chaque pays est très fier de sa politique énergétique. Je sais que les Canadiens sont très fiers de leurs barrages hydrauliques, sont très fiers de toutes les initiatives qu'ils ont prises en matière. Ils sont peut-être un tout petit peu moins fiers, mais là on peut en parler, c'est pas au Québec, des sables bitumineux. Quand on a entendu pendant des années les discours des Canadiens qui étaient très fiers de leur développement durable, et puis quand ils ont découvert le sable bitumineux, et surtout que le cours du pétrole rendait rentable l'exploitation du sable bitumineux, eh bien les grands principes de développement durable sont partis un peu aux oubliettes. Hein. Mais nous avons la France, nous sommes nous les champions du nucléaire, et comme chacun sait, et c'est ce qu'on nous dit tous les jours en France, le nucléaire est une énergie propre. C'est une énergie, quand on prend le train, on nous dit, rassurez-vous, vous ne dégagez pratiquement pas de CO2 parce que vos TGV sont électriques, et donc c'est alimenté par du nucléaire, donc c'est propre. Moyennant quoi, il y a eu un scandale il y a quelques mois, puisque l'une des chaînes, Arte, qui est franco-allemande, a publié un excellent reportage qui a même réveillé les députés. Il y a des députés qui ont été outrés, qui révélaient que la plupart de nos déchets nucléaires partaient dans des trains, étaient embarqués au Havre et étaient transportés en Russie, pour être stocké à l'air libre en Sibérie. Donc, voilà notre énergie propre. Hein. Alors, on a une usine à La Hague, qui fait bien dans le tableau, qui est censée retraiter les déchets, etc. Et en fait, ça retraite le haut de l'iceberg, mais le dessous de l'iceberg va se faire stocker en Sibérie. Donc, mais on est fiers de notre politique énergétique, parce que nous n'émettons pas de CO2, parce que nous avons l'énergie propre du nucléaire. Je vous ai parlé de nos TGV qui sont électriques comme vos trains bombardiers, donc vos trains ils consomment des kilowattheures hydrauliques chez vous, les nôtres ils consomment des kilowattheures nucléaires. Et en fait, quelque part, c'est faux. Parce que tous nos trains, les vôtres comme les nôtres, ils sont au charbon. Il faut le savoir. Pourquoi ? L'explication est la suivante. Quand j'allume mon rasoir électrique, je consomme une puissance électrique supplémentaire. Quand j'allume mon radiateur électrique, c'est une puissance électrique supplémentaire. Ce qui veut dire que je vais consommer du kilowattheure supplémentaire. Or, le nucléaire ou l'hydraulique va produire une certaine quantité. Les centrales nucléaires ne peuvent pas produire plus qu'elles ne peuvent. Les barrages ne peuvent pas produire plus d'électricité qu'ils ne peuvent. Donc, quand je demande que je sois au Canada, au Québec, en France, n'importe où, un kilowattheure supplémentaire, puisque toute l'humanité n'est pas alimentée par de l'hydraulique ou du nucléaire, quelque part, il y a quelque chose qui met la différence. Et qu'est-ce qui fait la différence ? Ce sont les centrales au charbon. Ce qui veut dire que le kilowattheure marginal, il est toujours produit par du charbon. Donc même si je suis dans un pays comme chez vous, je ne sais pas quel est le pourcentage de l'énergie électrique produite par l'hydraulique, donc une énergie renouvelable, certes, à partir du moment où, de toute façon, vous êtes interconnecté avec les États-Unis, et nous, en France, on est interconnecté avec l'Allemagne, l'Angleterre, etc., eh bien, sachez que chaque kilowattheure qu'on économise, c'est bien du charbon qu'on économise. Hein. Et donc, nos TGV, ils sont au charbon. Hein. Il n'y a pas de cheminée, mais ils sont au charbon. Hein. Et quand on sait qu'une centrale au charbon n'a que 40% de rendement, c'est-à-dire que quand il y a un kilowattheure qui arrive dans un chauffage électrique ici, eh bien, il a coûté 2 kWh et demi de charbon. C'est-à-dire qu'il y a eu 1 kWh et demi qui est parti dans l'atmosphère par la cheminée au niveau de la centrale électrique qui a produit le kilowattheure électrique à partir de charbon. OK ? Enfin, ceux qui ont un petit peu de formation technique m'ont compris. Et si j'ai fait une erreur dans le raisonnement, merci de m'en avertir. Mais... Donc c'est pour dire qu'il y a un enjeu énergétique, c'est pour ne prendre qu'un exemple. Et puis, alors on va nous dire que, vous savez qu'il y a des négationnistes de l'effet de serre, des gens qui disent, mais non, l'effet de serre, on nous intoxique, etc. Bon, mais peu importe, est-ce que c'est raisonnable qu'une génération comme la nôtre soit en train de consommer, en l'espace de 2 siècles, 90% des stocks d'énergie fossile de la planète dont nous avons la responsabilité? Je reviens sur le charbon. Pendant la période du protocole de Kyoto, la Chine va ouvrir jusqu'en 2012 800 centrales électriques au charbon. Et pendant ce temps-là, les États-Unis en ont fait des beaucoup plus puissantes et ils en ont installé 80. Donc avec lesquelles vous êtes interconnectés, puis-je me permettre de vous rappeler. On sait les conséquences de cette voracité sur l'énergie. Que ce soit pétrole, charbon, etc., des conséquences politiques. Regardez la géopolitique, regardez la carte de la planète, et vous verrez que là où il y a des guerres, c'est là où il y a des enjeux d'énergie. Hein? Donc vous voyez, il y a un lien direct entre mon over-consommation d'énergie, que ce soit avec ma voiture, mon chauffage, etc., et aussi ce qui se passe au niveau des grands enjeux. Vous savez très bien que s'il n'y avait pas eu de pétrole en Irak, il n'y aurait pas eu de guerre en Irak. Hein, je crois que je ne sais pas... Pas besoin d'être des grands experts en géopolitique pour comprendre ça. Et les scientifiques nous disent que si on veut rendre notre consommation d'énergie durable, en termes en tout cas d'énergie fossile, il faut tout simplement diviser les émissions de CO2 par 4. C'est-à-dire que tant qu'on fera des protocoles de type Kyoto ou Copenhague ou autres qui réduisent du bout des lèvres des quantités d'énergie, d'émissions de CO2 de 10% ou de 20% par rapport à une consommation d'il y a X années qui était déjà très importante, eh bien, on ne règle pas vraiment le problème. Donc on est le Titanic et on est en train d'aller dans le mur. Et puis, toujours sur le chapitre de l'énergie, c'est des exemples pour illustrer un petit peu ce qu'on vit. Alors, une colle, quel est le kilowattheure le moins cher? Là, je donne la parole à la salle. Quel est le kilowattheure qui coûte le moins cher? Merci. Alors, c'est celui, et c'est celui pour lequel il y a le plus grand gisement dans nos pays occidentaux, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et là, je peux vous dire qu'il y a de la ressource. Hein. Donc, ça, c'est le moins cher. Par contre... Quand on entend parler d'énergie renouvelable, eh bien, on se rend compte que les gens disent « Ouais, mais l'éolien, ça coûte très cher. » Et c'est vrai qu'une éolienne, c'est un investissement énorme. Chez nous, on a des éoliennes là, qui sont construites par les Allemands, qui font, je crois, 4 mégawatts. Le mât fait 80 mètres de haut, les pales font 40 mètres de chacune. Ça veut dire que le pale en haut arrive à 120 mètres de haut. Donc, vous voyez un peu les... Enfin, vous voyez ce que c'est qu'une éolienne. Et pour qu'elle tienne debout, il faut quand même mettre 1500 tonnes de béton en dessous. Et si jamais on l'installe en mer, il faut mettre 3000 tonnes de béton. Alors je ne sais pas combien il faut émettre de CO2 pour produire 3000 tonnes de béton qui font la fondation, rien que la fondation de l'éolienne. Sans compter le transport de l'éolienne, la construction. Le fait qu'une éolienne, c'est pas beau, ça fait du bruit, ça demande des coûts d'entretien et on ignore totalement l'espérance de vie. Alors on se rassure en disant que la tour Eiffel a déjà plus de 100 ans, mais une éolienne, c'est pas statique, c'est une mécanique, c'est des pales qui sont matériaux composites qui vont probablement pas durer aussi longtemps que la tour Eiffel. Donc l'éolien, même si l'énergie de base c'est le vent, ça coûte quand même très cher. L'hydraulique, vous serez beaucoup plus expert que moi, mais il y a quand même des impacts environnementaux considérables. Je ne vais pas parler de votre complexe de Lagrande qui produit 17 mégawatts, dont seulement 60% sont en fonctionnement, mais je vais parler des autres qui font beaucoup moins bien que vous. Hein, le canal, le barrage des Trois Gorges en Chine, 18 mégawatts. 18 mégawatts, c'est la puissance de consommée par la Belgique. C'est 18% de la puissance électrique française installée en France, puisque la France est exactement 100 mégawatts. Les Trois Gorges, ça a été 50 milliards d'euros d'investissement, donc quand même, ça coûte. Hein, 27 millions de tonnes de béton. C'est aussi un impact environnemental non négligeable et un déplacement de 1,6 million d'habitants. Donc on voit que c'est de l'énergie durable, oui, mais à quel prix ? Et donc, l'énergie durable, elle n'est pas très bon marché. Et vous avez une autre énergie durable qui a beaucoup de qualité parce qu'elle se stocke, c'est la biomasse. C'est l'essentiel de la biomasse, c'est, parlons clairement, le chauffage au bois. Et beaucoup de gens se plaignent que le chauffage au bois, ça coûte quand même très cher. Alors quand vous allez couper du bois dans votre jardin, vous mettez dans votre cheminée, c'est un coût invisible. Mais à partir du moment où vous payez des exploitants forestiers pour produire la forêt, ce qui n'est pas le cas chez vous, parce qu'elle pousse toute seule, mais enfin, en général, ça se gère une forêt... qu'il faut payer des abatteuses, des bûcherons, des débardeurs, des machins, etc., ça coûte extrêmement cher, qu'il faut amener ça dans une centrale, qu'il faut transformer le bois en fluide pour que ça passe dans les vis sans fin. Il y a un coût énorme et on se rend compte que le kilowattheure produit par le bois, qui est, je dirais, l'énergie renouvelable par excellence, mais que nous sommes obligés de transformer pour avoir... Et on a un coût réel d'énergie. Eh bien, on dit, mais c'est pas compétitif, c'est beaucoup plus cher que le fuel, que le pétrole. Mais effectivement, le pétrole, quand on fait un trou puis qu'on tape dans le stock, ça coûte rien. Donc vous voyez qu'on est dans un espèce de bluff en ce qui concerne le coût de l'énergie, parce qu'on ne reconnaît pas le coût réel de l'énergie et la valeur du stock qu'on est en train de vider en l'espace de quelques décennies. Hein? Donc soyons très conscients que notre overconsommation d'énergie est quelque chose qui n'est pas juste, c'est pas le juste prix. C'est pas juste en termes de conflits que ça peut générer sur la planète, et c'est pas juste en termes de conséquences sur l'environnement. Je vais pas. Mais on a le droit, vas-y. Je peux pas te répondre. Je m'excuse. Non, très honnêtement, je vais te répondre des banalités. Tu fais géothermie sur Internet et tu auras la réponse. Parce que je prends très honnêtement des exemples. Et mon propos n'est pas de vous dire ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire. Mon propos, c'est de vous illustrer une situation et de vous donner des pistes de réflexion. Et après, je pense que ça sera une des conclusions qu'on tiendra demain, vous êtes chacun responsable face à votre propre responsabilité, avec votre background, avec votre culture, avec votre éducation, et avec le Seigneur qui vous guide. Et avec le Seigneur qui vous dit, mais toi, c'est là que je t'attends. C'est là que tu dois faire un progrès. Donc là, je suis déjà à la conclusion, je peux presque reprendre l'avion, mais... Donc si tu veux, je n'ai pas travaillé cet exemple de la géothermie, Hein, j'avoue que je suis dans un pays où c'est pas. Voilà. Donc j'aurais pu, là j'ai l'exemple de l'eau, on pourrait parler des enjeux environnementaux liés au conflit de l'eau qui sont importants. Donc je suis toujours sous le titre que j'avais appelé la surconsommation. La surconsommation tout simplement de l'inutile, hein, les gadgets. Les vêtements, bon, ça c'est plus un problème féminin, mais c'est pas de votre faute, hein, mesdames. Hein. Mais c'est de la nôtre. C'est de la nôtre. On est tous solidaires. La mode, c'est quelque chose de catastrophe. Enfin, cette dame qui ouvre sa garde-robe de 3 mètres de long et qui dit, mon chéri, j'ai plus rien à me mettre, c'est dans tout. C'est dans tous les foyers. Et ben. Donc le « j'ai plus rien à me mettre », toutes les femmes de la Terre l'ont dit, et le disent encore de plus en plus, parce que la pression de la publicité, la pression de la mode est telle que au bout d'un an, mais je vais pas me mettre ça, pour qui je vais passer, enfin, ok, hein, je crois que... mais c'est dramatique, vous vous rendez compte, cette espèce de rouleau compresseur, de surconsommation, hein, d'inutile. Ne parlons pas de nourriture, le gâchis de nourriture. Regardez, hein, je disais à quelques-uns là, c'est fou ce que dans la Bible il y a, quand on prend comme un logiciel comme Photoshop ou comme AutoCAD, vous savez, ces logiciels qui fonctionnent, ou SketchUp qui fonctionnent avec des calques, quand on met le calque amour, on a brouf, plein de versets bibliques qui s'affichent. Puis quand on met le calque, sacrifice, brouf, on a plein de versets bibliques qui s'affichent. Eh bien, mettez le calque création. C'est fou le nombre de versets bibliques, et plus ça va, plus je relis ma Bible, et plus je me rends compte qu'il y en a qui sont fourrés partout. Regardez Jésus à la fin de la multiplication des pains. Attends, il a quand même fait fort. On pourrait faire une étude biblique thématique sur l'environnement avec la multiplication des pains, mais toujours est-il, c'est qu'à la fin, Jésus il dit, et là, vous ramassez. Moi j'ai multiplié, ok, j'ai fait mon devoir, j'ai fait mon devoir de créateur qui renouvelle la face de la terre. Mais attendez, vous avez pas la responsabilité, vous avez la responsabilité de ne pas gâcher. Hein, ils ont ramassé 12 paniers. Hein. Regardez un petit peu le gâchis de nourriture. Au point que dans un restaurant universitaire ou n'importe où, on n'a même pas le droit de récupérer la nourriture pour la donner aux cochons. Elle doit être jetée à la poubelle. On ne peut même plus réutiliser les restes de nourriture pour la donner aux cochons. Légalement, on n'a plus le droit de le faire. Donc ça veut dire qu'institutionnellement, notre société... créer le gâchis. Hein? Regardez comment fonctionnent les restaurants, on est servi à l'assiette et puis on mange ce qu'on a envie de manger, et puis le reste, ça part à la poubelle. Donc vous voyez, surconsommation, l'inutile, le surconfort, la taille de nos maisons, le chauffage excessif, j'en parlais avec... on est complètement typique. Enfin, franchement, on est en chemise. Enfin, c'est pas sérieux. Je m'excuse, là je veux pas nous culpabiliser, mais je veux vous mettre face à quelque chose qui, aujourd'hui, moi, me choque. Hein? On est en petite chemise, il fait quoi, 22 degrés, on ouvre la porte pour aérer, bon, et on a besoin d'air, c'est normal, on respire. Hein? Il fait, là, aujourd'hui, il fait 10 degrés dehors, mais hier, il faisait zéro. Hein? Et on chauffe, et on chauffe, et on chauffe, et on chauffe, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Hein? Eh ben, au Népal, eh ben on ne chauffe pas. À Katmandou, on ne chauffe pas. Parce que le kilo de charbon ou le litre de fuel, il est importé de l'Inde en camion. Et par quelle route? Donc il est absolument hors de prix. Et je vous promets qu'au Népal, dans l'Himalaya, là, il fait froid. Hein? Eh ben les gens, ils vivent en manteau, en peau de yak, en tout ce que vous voulez. Hein, les gamins, vous les voyez courir dans les rues, ils sont emmitouflés, et dans la maison, ils sont emmitouflés. Alors si, il y a des petits braseros au charbon de bois, mais c'est peanuts comme consommation. Donc vous voyez, c'est finalement très agréable de vivre à 22 degrés. Hein, c'est notre culture. Hein, et c'est pour ça qu'hier soir, j'ai développé toute l'importance qu'avait la culture que j'ai reçue chez moi pour vous dire, mais ne jugeons pas, et je ne vais pas nous juger aujourd'hui de dire, mais on est en train de vivre en petite chemise alors qu'il fait 10 degrés dehors, et qu'entre la différence, eh bien, c'est des kilowattheures charbon qui sont en train de cramer à 3000 km d'ici, parce que tout ça est interconnecté. Mais c'est pour dire que de façon insidieuse, nous sommes dans une société de surconsommation. Je ne parle pas des gazons autour de nos maisons qui sont tendus tous les 8 jours. Hein, alors là, et pendant des sacs de où on met le gazon et qui partent aux poubelles et qui, etc. Enfin bon, la tondeuse à gazon tous les 8 jours, c'est dramatique. Alors là, ne parlons pas de biodiversité et tout ce que vous voulez. Bon, surconsommation, bah, disons 2 mots sur les déchets, mais je crois que c'est pas la peine. Hein, bon, on a parlé des déchets nucléaires, on parle de la pollution dans la mer, on parle, j'ai vu le mail là, de votre président là, du GBU, qui est je ne sais où, qui ne peut même pas se baigner parce que l'eau est trop polluée, hein, en Malaisie, c'est ça. Mais vous savez tous de quoi on parle. Ces déchets, c'est la pollution des eaux, des sols, mais c'est tous ces emballages et ces sacs plastiques qu'on utilise pour un oui, pour un non. C'est ces imprimantes. Enfin, quand j'achète une imprimante, elle vaut le prix des cartouches qu'il y a dedans. Ça veut dire que si mon imprimante est en panne, je la jette immédiatement et je vais au magasin acheter une nouvelle imprimante, puisque de toute façon, ils me vendent une machine à consommer des cartouches. Et ils me la vendent gratuitement, puisque l'imprimante vaut le prix des cartouches. En attendant, ça fait une imprimante, ça fait 8 kilos de déchets qui part aux déchets et qui est arrivé du Japon ou de Corée ou de je ne sais pas où. Enfin, c'est pour dire qu'on est dans une espèce de monde de surconsommation, de facilité absolument fantastique. Et puis, ça se traduit par ce que le WWF a très bien développé par la notion d'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est une forme de mesure de pression qu'exerce l'homme sur la nature. C'est la surface permettant de vivre en autarcie, de façon durable, pour répondre à nos besoins en nourriture, en chauffage, en matériaux de construction, en air pur, en eau potable, en absorption de déchets. C'est-à-dire, je suis sur l'île de Robinson Crusoe, qui fait X hectares. Combien vais-je pouvoir faire vivre sur cette île de personnes de façon durable pour qu'ils aient satisfaction à tous leurs besoins nécessaires de nourriture, de santé, etc., tel qu'on vient de le dire. L'empreinte écologique d'un pays évalue la demande de sa population en surface de terre et de mer nécessaire pour fournir les ressources consommées. Alors, ne me demandez pas comment c'est fait, mais vous trouverez les rapports sur Internet ou des livres spécialisés. L'empreinte globale en besoins actuellement, c'est-à-dire la consommation réelle de l'humanité, se traduit par une empreinte globale de 14 milliards d'hectares, soit 2,2 hectares par habitant. Or, l'empreinte globale, la biocapacité globale de la planète, alors je pense qu'ils doivent éliminer les déserts, enfin un certain nombre une bonne partie du Canada quand même, de zones, si vous voulez, qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la biocapacité. La biocapacité globale disponible sur la planète est de 11,2 milliards d'hectares, soit 1,8 hectares par habitant. On a dit 2,2 la consommation, 1,8 ce qui est disponible. Ce qui veut dire que là, il y a 20% qui manque. Ces 20% qui manquent, c'est quoi? C'est le stock. C'est le stock, c'est le fossile qu'on est en train de prélever à tour de bras. Ça veut dire que déjà, aujourd'hui, à l'instant T, notre planète vit au-dessus de ses moyens. Mais en termes de justice, c'est beaucoup plus dramatique. Je ne connais pas le chiffre du Canada, ouf! Un habitant des USA consomme, donc vous voyez, la disponible 1,8, la consommation moyenne du monde c'est 2,2, la consommation d'un habitant des USA c'est 9,6 hectares, c'est que ça veut dire qu'il faut plus de 5 planètes pour nourrir l'humanité avec le train de vie des États-Unis. Un Français en tout cas, c'est 5,6. Et l'empreinte d'un Français a augmenté de 40% en 40 ans, alors qu'il y a eu 27% d'augmentation de la population. Donc vous voyez que là, il y a une espèce de... Donc il y a eu un déficit écologique de la France qui a augmenté de 93%, si vous intégrez ces deux chiffres. Donc vous voyez à quelle rapidité les choses avancent. Pendant que les USA 9,6, les Français 5,6 hectares de besoins en consommation, un Asiatique c'est 1,3. Un Africain, à ma surprise, C'est 1,1, mais je pense que c'est tiré vers le haut par l'Afrique du Sud et par certains pays comme peut-être le Kenya, l'Égypte, etc. Parce que je pense que, tel que je connais l'Afrique noire, que je connais un peu, on est à des chiffres qui sont bien inférieurs. Et un Afghan ou un Népalais, c'est 0,3 hectares. Un Népalais, il ne se chauffe pas. Un Népalais, il s'habille avec ses poils de yak, un Népalais, etc. Et j'ai vu des Népalais heureux. Voilà. Donc, on est, si vous voulez, on touche du doigt une surconsommation mondiale qui fait que, de toute façon, c'est pas durable, ça peut pas durer, puisqu'on est en train de vider les stocks, hein, et qu'après, il faut de toute façon réduire. Hein, et en plus, on est dans une situation de disparité entre les pays qui est, je pense qu'on peut qualifier de choquante. Alors c'est vrai, il y a des pays où il faut se chauffer, des pays où il ne faut pas se chauffer, ça a une incidence. Mais quand je vous parle du Népal, c'est aussi un pays où on devrait se chauffer. Hein? Parce que le chauffage représente, surtout quand on a des... je serais curieux de connaître le coefficient d'isolation des murs de la pièce dans laquelle on est. Hein? Mais pas brillant. Hein? Bon. Alors... c'est pour dire que face à cette surconsommation dont je n'ai cité que quelques exemples, pour vous exciter le sens de l'observation et le sens critique, eh bien notre crise écologique est vraiment une crise morale, une crise donc qui fait appel aux valeurs morales. Et on va déjà faire des commentaires sur les deux premières armes du chrétien. Vous les connaissez les armes du chrétien, il y en a 7. Et on les trouve où ? Oui, merci. Je vois qu'on a la même Bible. Hein? Alors, la troisième arme, c'est l'évangile de paix. Hein? Ayez comme chaussure l'évangile de paix. La quatrième, c'est le bouclier de la foi. La cinquième, c'est le casque du salut. La sixième, c'est l'épée de l'esprit. Et la septième, c'est la prière. Et les deux premières armes, eh bien, ce sont des armes qui sont à la portée de tous, qui ne sont pas uniquement les armes des chrétiens. C'est d'abord la vérité pour ceinture. Eh bien, notre société, dans ces questions environnementales, refuse de voir la vérité. Nous sommes dans une société qui se ment à elle-même, et tout le monde ment à tout le monde en ce qui concerne les enjeux environnementaux. Comme par hasard, la première arme, si vous voulez, hein, du chrétien, elle est déjà mise à mal dans ces questions d'environnement. Hein? J'ai noté comme exemple le problème de l'électricité en France qui est propre. Hein, bon, donc ça y est, j'ai donné, je ne répète pas. On a parlé du sable bitumineux. Ah, il y a le biocarburant, c'est extraordinaire. Hein. Ça y est, on a trouvé la solution. Vous pouvez continuer à prendre vos voitures qui consomment 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20 litres au 100, car nous avons la solution, c'est le biocarburant. Bien entendu, seulement, manque de bol, le biocarburant rentre en concurrence directe avec l'alimentation. Et donc là, on est dans une impasse immédiate. Et puis, un des mensonges les plus extraordinaires que j'ai vu ces dernières années, c'est qu'on a inventé les avions verts. Les Boeing a son Dreamliner, et puis nous avons notre Airbus A380. On nous les présente comme étant des avions verts. Ça veut dire que vous pouvez maintenant reprendre l'avion. C'est des avions qui ne polluent pas. Vous savez pourquoi ? Parce que par siège, ils consomment 20% de moins. Donc, on nous dit que ce sont des avions verts parce qu'on a réduit la consommation par siège de 20%. Et donc, j'ai moins de scrupules à voler, donc je vole plus. Et je consomme globalement beaucoup plus. Et voilà, tout le monde est content. On continue à fabriquer des Boeing, on continue à fabriquer des Airbus, on continue à tirer du kérosène, etc. Donc, vous voyez ce genre de mensonges qui sont insidieux, qui sont omniprésents dans notre société. Et notre société, pour dire à quel point c'est une société de mensonges, nous avons des compagnies spécialisées dans le mensonge. Ce sont les lobbyistes. Hein, l'autre jour, Obama, là, il nous a quand même fait sourire, hein, quand il a dit la Maison Blanche est assaillie de tous ces lobbyistes concernant les banques, etc. Et j'en ai marre. Et, il a mis un peu les pieds dans le plat. Mais regardez ce que... Enfin, vous savez ce que nous disent les lobbyistes, et ils le disent de façon tellement intelligentes. C'est leur métier, c'est de mentir sans qu'on s'en rende compte. Hein? Alors, ils sont payés pour imposer leurs idées, donc il n'y a aucune objectivité. Moi, je ne sais pas, par exemple, ce qu'il faut penser des éoliennes. Je suis complètement paumé. Parce que j'ai envie de dire, bah, développons les éoliennes, parce que c'est vraiment une énergie, effectivement, avec le vent, etc. Mais on reçoit sur nos boîtes e-mail des mails qui nous expliquent, c'est un scandale, l'éolien, c'est subventionné, c'est ceci, c'est cela, etc. Et puis il y a des gens qui nous disent, ouais, mais les gens qui critiquent les éoliennes, c'est le lobby nucléaire. Or, je sais que le lobby nucléaire en France est infiniment fort, et il est installé à l'Élysée même, etc. Donc vous voyez, on est dans une société où le mensonge est complètement institutionnalisé et dans lequel nous sommes tous. Voilà. Alors, ça c'est juste une allusion à cette première arme qui est la vérité. Mais parlons de la justice. On l'a évoqué déjà avec cette disparité concernant concernant l'empreinte écologique. La misère est quand même inacceptable dans notre siècle. Regardez cette disparité au niveau alimentaire. Et puis regardons comment allons-nous faire pour traiter l'exigence, c'est pas la demande, c'est l'exigence des pays émergents, de dire dedans on a envie de vivre comme vous. Moi, j'ai un copain, il est une semaine par mois en Chine, il est en train de construire une usine en Chine. C'est une discussion qu'on a eue il y a 15 jours. Et puis, comme il est une semaine par mois en Chine, il s'est dit, ben, je vais acheter une petite voiture à 3 000 $, ça me suffit, j'arrive, ça me sert pour aller à l'aéroport, à l'usine, etc. Et les gens, les Chinois, ils l'ont dit, mais attends, t'es le patron, il n'est pas question que tu aies une voiture à 3 000 $. Tu dois absolument avoir une voiture de ton rang de patron. Et c'est comme ça que ça fonctionne, les Chinois. Nous, c'est un peu passé, cette notion de la voiture qui affiche le statut social. C'est un peu passé. Mais en Chine, attends, il ne faut pas se faire d'illusions. Les Chinois, ils bossent comme des fous parce qu'ils veulent vivre comme nous. Il n'y a pas d'autres considérations. Hein, comment est-ce qu'on va faire face à l'ogre chinois qui veulent tous? C'est très simple. Les Chinois, ils sont exactement 20% de plus que les Français. Et aujourd'hui, il y a exactement autant de voitures en Chine qu'en France. Ça veut dire que le marché potentiel de la Chine dans notre train de vie français, c'est de 20 fois plus de voitures qu'en France. Vous vous rendez compte? Alors c'est bon pour l'économie, c'est bon pour nos exportateurs de technologie, mais attends, comment on va faire? Ça va disjoncter. Les Chinois ne se sont pas trompés, ils sont en train de faire une rafle sur toutes les matières premières du continent. Hein, je pense que ceux qui sont africains parmi vous, vous savez très bien ce qui est en train de se passer en Afrique. Et puis alors, les Blancs, ils avaient un peu de scrupules, et puis le complexe d'être des anciens colonisateurs, et puis peut-être quand même une culture chrétienne quand même dans nos nations occidentales, qui faisait qu'il y avait une notion de développement. Mais alors les Chinois, ils débarquent en Afrique, ils ramassent, ils corrompent, ils font tout ce qu'ils veulent, hein, on est dans l'ère du pillage. Et ils disent, mais pourquoi vous nous le reprochez, puisque vous l'avez fait pendant un siècle avant nous? Et ils ont raison, qu'est-ce qu'on va leur répondre? Les Chinois, ils sont bosseurs, ils sont disciplinés. J'ai un autre copain qui m'a dit, les Chinois, c'est pas compliqué, ils ont pris ce qu'il y avait de meilleur du communisme, la planification, l'efficacité, l'autorité, hein, et le meilleur du capitalisme. Avec ça, c'est le rouleau compresseur. Alors nous, on est là, on est comme des cons, on est en pétoche. Et on a peur de quoi? On a peur que les Chinois se mettent à vivre avec le même train de vie que nous. Ben, attends, c'est leur droit s'ils se mettent à bosser. Nous, en France, on a Martine Aubry qui, il y a 10 ans, a fait passer une loi pour qu'on n'ait pas le droit de travailler plus de 35 heures. Hein? En Chine, allez leur parler de 35 heures. Hein? OK? Donc vous voyez, on est face à une situation qui est absolument insoluble. Insoluble, ça c'est la réalité. Hein? Comment traiter cette question de justice où ces pays émergents, les BRIC, là, chinois, Inde, URSS et puis Brésil, comment vont-ils, va-t-on leur refuser notre train de vie? Alors, On a parlé des deux premières armes, hein, vérité et justice, hein, et on voit qu'on a du boulot, les petits chrétiens, là. Hein. Parlons de cupidité, ben, c'est la racine de tous les maux. Hein. Hein, on veut tous posséder, et on veut posséder tout simplement plus que l'autre. Si j'ai un vélo et que mon voisin est à pied, je suis heureux. Mais si mon voisin je suis en vélo et que mon voisin a une voiture, je suis malheureux. Donc je tends à avoir une voiture plus belle que lui, et ainsi de suite. Mais regardez, vous prenez un groupe de gamins. Vous avez 10 gamins qui sont en train de jouer, qui s'entendent bien. Vous arrivez avec 10 sacs de bonbons. Vous donnez un sac de bonbons à chaque gamin. Tout se passe bien. Vous arrivez avec 10 sacs de bonbons, vous en donnez 2 à 3 gamins, 1 à 2, et puis pas aux autres. C'est fini, c'est la guerre. Ah oui, il a eu plus que moi. C'est tout simple. Donc, je veux dire, c'est basique. Et regardez, c'est pas juste les Chinois, ils vont avoir le même train de vie que nous. On supporte pas, c'était quand même vachement plus confortable avant. Hein ? Donc, la cupidité, c'est vraiment la racine de tous les maux. Vouloir paraître, donner une image de soi, on vient de parler de la voiture, mais c'est aussi la maison, les voyages, les vêtements, etc. Hein, les recherches de pouvoir. En France, on a, j'imagine c'est un peu comme ça ici, et c'est comme ça que Sarkozy se fait harceler sur le plan politique, parce que l'opposition le harcèle parce qu'il y a le droit, écoutez bien, le droit à la croissance du pouvoir d'achat. Il est mort, Sarkozy. Mais il est mort, comme tous les présidents de la République de France. Comment peut-on aujourd'hui, dans le contexte économique dans lequel on est, garantir à un peuple un droit à la croissance du pouvoir d'achat ? Alors, je ne vais pas partir dans un cours d'économie que je ferai beaucoup plus maladroitement que certains experts dans la salle. Mais si vous voulez, partir du principe que chaque citoyen a droit à avoir une croissance de pouvoir d'achat, c'est la mort de la planète, c'est le suicide de la planète. Et on en est à un point à se poser des questions, c'est que nos régimes, notre démocratie extraordinaire, non, je reparlerai de ça à un autre moment, pardon. Parfois, je vais plus vite que mes notes et puis je fais des choses dans le désordre. C'est pour ça que c'est souvent dans le désordre. Je pourrais vous redonner mes plans si ça vous intéresse. Alors, bon, parlons deux mots de la publicité. Toujours plus. Hein, la publicité vous vend le bonheur par l'avoir. Hein, et puis, dès qu'on a, elle vous dit « Ah, ben, ce que t'as, c'est bien, mais c'est périmé. Hein. Il faut que t'aies mieux. Hein, » Et hop, on jette et on recommence. Ben, vous connaissez ça par cœur. Comment peut-on vivre dans ce monde ? Et puis, nous sommes nous-mêmes dans nos entreprises. Et nos entreprises, nos patrons, ou les entreprises dont on a la responsabilité, il faut qu'elles fonctionnent. Donc, on est nous-mêmes complices. On va faire de la pub pour faire tourner notre business. C'est normal qu'on soit soucieux de développer notre entreprise, de maintenir notre emploi et de vendre nos produits. Et on devient tous complices. Hein, c'est comme cette histoire d'énergie, on est tous complices. On tourne le robinet du machin, on prend notre voiture, etc. On est tous complices. Là, je suis en train d'accuser personne. Je fais un constat de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. La vision, l'autre jour, dans cette réunion d'experts au Muséum là, à Paris, il y avait un espèce de questionnement. Comment amener les gens à prendre conscience que la conservation de la nature est importante ? Eh bien, la principale réponse a été de dire, tant qu'on n'aura pas expliqué quelle est la valeur de la nature en tant que valeur économique, on n'arrivera pas à convaincre nos dirigeants de protéger la nature. Donc, on est en train de payer des bureaux d'études très chers pour évaluer, bon, vous me direz, c'est intéressant, quelle est qu'est-ce que coûte sur la société la destruction d'un hectare de zone humide ? Parce que, bon, on passe une autoroute, allez hop, on fiche en l'air 15 hectares de zone humide, tout le monde s'en fout, on met du remblai et tout le monde est content. Ah oui, mais si on veut, en tant qu'association d'écolos, dire, attendez, l'autoroute, on pourrait peut-être la dévier, ou on pourrait peut-être ne pas la construire, on pourrait peut-être, je ne sais pas, faire autrement, il faut qu'on puisse dire, ne massacrez pas notre marais, parce qu'il a une valeur. Ben oui, un marais, eh ben il y a un bilan carbone, parce que ça fixe du carbone. C'est une machine à épurer l'eau, c'est une machine à réguler les crues, etc. Et tout ça, à partir du moment où je supprime ma zone humide, eh bien, il faudra payer des infrastructures pour compenser cette disparition de zone humide. Mais c'est quand même fou qu'on soit dans un siècle où, pour défendre la nature, on soit obligé de dire « voilà ce que la nature peut rapporter », c'est-à-dire que le référentiel... C'est l'économie. Et l'économie, eh bien, c'est le court terme, on en reparlera. On en reparle. Comment ? C'est le court terme, mais justement, j'arrive là, ça, j'arrive sur les notes que j'étais en train de passer. Comment voulez-vous? On est dans un siècle qui est structurellement, qui fonctionne dans une vision à court terme, donc qui est à l'opposé d'un développement durable. Un développement, yes, mais durable, point d'interrogation. On est fiers de nos démocraties. Démocratie, d'abord, on exporte ça, le concept de la démocratie dans le monde entier, même dans des pays, et je pense que les Africains parmi nous sont assez d'accord pour dire que ça a un peu de mal à fonctionner mais en Afrique ou dans certains pays asiatiques. C'est le moins mauvais système, donc je ne suis pas contre. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est élire son député. Et un mandat de député, c'est combien de temps? 4 ans? 5 ans? Ok, selon les pays. Et un député, qu'est-ce qu'il fait pour se faire élire? Il fait des promesses. Il ne va pas se faire comme promesse, votez pour moi parce que dans 10 ans, vous vivrez mieux. Il est obligé de faire une promesse à court terme. Sinon, c'est un suicide politique, sa carrière s'arrête. C'est tout, l'équation. Le développement durable et la démocratie. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il faut mettre en place une dictature, mais là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Comment on va gérer la compatibilité entre un développement durable et une démocratie avec des mandats à court terme? En France, on avait un président de la République qui était élu pour 7 ans. Eh bien, on a décidé que 7 ans, c'était trop long. On a réduit à 5 ans. Comme ça, on est sûr que quand il fait sa campagne présidentielle, il nous fasse des promesses à court terme, tout de suite, tout de suite. Et puis les autres dirigeants de notre monde, ce sont les dirigeants de nos grandes sociétés capitalistes. Et on est fiers de notre capitalisme. Et je crois que c'est le moins mauvais système. C'est aujourd'hui ma conviction, mais bon. En tout cas, si l'alternative, c'est le communisme, ça marche pas vraiment bien. Mais c'est quoi un patron d'une société qui est au Nasdaq ou au Dow Jones ou au CAC 40? C'est quelqu'un qui passe en assemblée générale tous les ans et qui est quelqu'un qui annonce des dividendes. Et le mec qui annonce pas de dividendes et qui dit « Oh là là, on vient de faire un investissement, vous savez, on est dans le développement durable, on protège l'environnement, etc. » Vis-à-vis de nos concurrents, on s'est quand même sérieusement pénalisé, mais on respecte l'environnement, peut-être que vous aurez des dividendes dans 5 ans. Le mec, il saute immédiatement. Donc on était dans le suicide politique, là on est dans le suicide professionnel. Donc vous voyez que les deux piliers de notre monde d'aujourd'hui, qui se généralise à toute la planète, eh bien ce sont des deux piliers qui sont complètement, intrinsèquement incompatibles avec une vision du long terme. On est mal barré, hein? Mais c'est grave, c'est sérieux. Donc on est dans une insouciance. Et l'insouciance, c'est ne pas changer de comportement parce que le péril n'est pas immédiat. Il y a un psychologue dont j'ai lu un article là, ces jours derniers, qui disait, mais notre mécanisme de défense, notre cerveau, notre psychologie, est fait pour réagir à un péril immédiat. Mais on n'est absolument pas fait, structuré, même intellectuellement, psychologiquement, pour anticiper un péril à long terme. Regardez un jeune, 14 ans, arrête de fumer, gamin, tu es en train de devenir, toi, tu vas fumer un paquet de cigarettes, qu'est-ce qui va se passer à 50 ans, cancer, machin, etc. Le type, il n'en a rien à péter, il a 15 ans, laisse-moi, laisse-moi fumer. C'est-à-dire qu'à 50 ans, il va multiplier par 4 ou par 10 ses risques d'accidents vasculaires cérébraux, mais ce n'est pas son problème. Mais on est tous comme ça. Et parler un petit peu des gens de la mort, ça ne les amuse pas, mais ils s'en foutent, c'est dans longtemps la mort. De toute façon, après, et parler de la vie éternelle, ça c'est dans longtemps. Mais non, mais on touche du doigt cette notion-là. Donc on est toujours dans une vision à court terme. Et je reviens un petit peu aussi sur le système économique, mais je voulais vous dire ça aussi. On est dans un système économique. Alors maintenant, on est en période de crise, donc il y a une croissance du chômage. La seule solution pour régler nos conflits sociaux en ce moment, c'est de réduire le chômage. Et le seul moyen de réduire le chômage, c'est de développer la surconsommation. C'est bien ça l'équation. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de repenser complètement la société. Hein, bon, c'est une variante de ce que j'avais dit juste avant. Alors, donc vous voyez que... Je vais m'autoriser à déborder de 5 minutes, vous me pardonnerez. On est vraiment dans une impasse, et on est vraiment dans cette crise morale où, finalement, le fonctionnement de la société reflète l'état du fond de notre cœur. On reste dans l'ignorance, on ignore le pauvre, on n'a pas de compassion, on hérite de cette façon de vivre si facile, si agréable, etc., vis-à-vis qu'on n'a pas de recul. Il n'y a pas de solution. J'en sais rien. Moi, je suis venu avec un Boeing 777. Ça pèse quoi? Ça pèse 400 tonnes. Attends. Il n'y a rien de plus dangereux que de voler. Le moyen de transport le plus dangereux, c'est quand même de voler. Tu tombes en panne, tu tombes, tu meurs. Ok? Enfin, c'est infiniment plus dangereux que le vélo, on tombe pas de haut, que la voiture, etc. Infiniment plus dangereux. Or, on est dans un siècle où ce qui est dangereux quand on prend l'avion, c'est d'aller à l'aéroport en voiture. C'est-à-dire que les marchands d'avions, les marchands d'aéroports, les marchands de voyages, etc., ils se sont dit, si on veut vendre des avions, du kérosène, des voyages et tout, on n'a qu'une chose à offrir, c'est une sécurité absolue. Et on a fait du transport aérien, qui est théoriquement le moyen de transport le plus dangereux qui puisse exister, parce qu'un avion, quand ça tombe, eh ben on meurt, on en a fait le moyen de transport le plus sûr. C'est pour dire que, quand on veut, techniquement, on y arrive. Et regardez la chaîne de la sécurité dans le transport aérien, c'est extraordinaire. Ça part de la fabrication de tous les éléments d'un avion qui sont testés, retestés, 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 à la conception, à la fabrication, qui sont toutes les autorisations pour faire voler les avions, toute la surveillance du trafic aérien et tout le personnel, les hôtesses de l'air, même les visiteurs, les clients sont sollicités et personne ne bronche. Maintenant, on va nous mettre dans des scanners, dans des machins, personne ne bronche. Tout ça pour la sécurité. Et ça marche. Et c'est quand même un miracle qu'un Boeing 777 qui pèse près de 400 tonnes, pouf, ça s'envole. Et quand ça se pose, t'as la roue avant de l'avion qui se pose sur le pointillé. Non mais attends, c'est extraordinaire. Moi, je ne me lasse pas. C'est pour dire que quand on veut, quand on a les moyens techniques qu'on veut, qu'on a, on peut, si on veut faire de notre société une société durable qui peut nourrir 5, 10, 15, 20 milliards d'habitants, on peut. Donc c'est bien un problème moral. Vous comprenez? Donc il faut que nous changions de comportement. Et pour changer de comportement, eh bien il faut qu'on apprenne à sortir de cette addiction, de cette dépendance, de cette vie dans laquelle nous vivons, de cette pièce à 23 degrés. Et comment on fait pour sortir d'une dépendance? Quand je suis pris par le tabac, quand je suis pris par l'alcool, quand je suis pris par le jeu, etc. Mais il y a une première étape, je suis dans le déni. Oh, je ne bois pas plus que les autres. Ma femme vous dira que tous ses clients commencent par lui dire, mais non, j'ai été pris avec un alcootest, j'ai eu un accident, mais c'est la seule fois que ça m'arrivait, je ne bois pas plus que les autres. On est dans le déni. Et il faudra un mur, il faudra un accident pour que le type se dise, ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai, je bois trop. Hein? Et regardez ce qui s'est passé avec la Nouvelle-Orléans. Hein? C'est en dessous du niveau de la mer, mais c'est pas grave. On vit dans le déni. Puis un jour, il y a le pépin, il y a le mur. Alors là, tout le monde réagit. En France, on vient d'avoir 60 morts. Hein, des digues, ça faisait des années qu'on dit attention, les digues elles vont péter. Un jour, s'il y a une conjonction de facteurs, ça va péter. Et ça a pété, il y a eu 60 morts. Donc il y a à un moment donné le mur. On est dans une société qui a besoin, malheureusement, d'avoir un mur, comme un choc pétrolier, comme je ne sais pas quoi, pour dire mais il faut réaliser. Et si on pouvait éviter le mur, ça serait quand même beaucoup mieux. Hein. Et quand l'alcoolique a eu ce mur qui s'est dit, oh là, mais c'est vrai, je vois vraiment plus que les autres, il va commencer à négocier, il va commencer à trouver des tas de raisons pour ne pas se faire traiter, pour ne pas arrêter de boire, etc. Il va rentrer dans la phase de la négociation. Et ça sera au bout d'un long temps, et probablement après un deuxième mur, qui va arriver à la capitulation. Et j'arrive à un élément important dans ce procès-là, j'ai vraiment survolé les étapes de la sortie de l'addiction, Et il y a une étape qui est très importante, c'est que quelqu'un qui a un problème d'alcool, qui a été sevré, il ne faut pas qu'il reste seul. Et vous allez voir que c'est important parce que nos églises vont prendre de l'importance dans la problématique qu'on traite aujourd'hui. Et ensuite, il va y avoir un processus de changement qui va être un changement qui va commencer par des petits changements, à condition qu'il y ait des encouragements, à condition qu'il y ait un support. C'est le rôle de ces groupes d'alcooliques anonymes ou Croix Bleue, etc., hein, de soutenir ces gens qui sont en train de sortir et d'avoir la victoire sur l'addiction. Puis il y a des rechutes, mais après on arrive à la victoire définitive. Et le problème de notre addiction à notre énergie bon marché, à notre énergie facile, à notre surconsommation au quotidien, eh bien c'est qu'elle est collective. Si moi je change et que l'autre ne change pas, eh bien, je ne suis absolument pas motivé, donc je ne change pas. Hein? Et c'est là, peut-être, qu'on va pouvoir développer, ce soir et demain, eh bien, le rôle unique que peut avoir l'Église ou que peuvent avoir les Églises. C'est une vraie opportunité pour les Églises, parce que l'Église, à trois niveaux, sur le plan humain, c'est un groupe local. C'est en même temps un groupe mondial, c'est une grande multinationale, l'Église, avec toute sa diversité. Nous avons des frères dans tous les pays, donc ça nous amène à être beaucoup plus conscients de ces aspects d'injustice qu'on a développés. L'Église va nous apporter une dimension humaine, va nous apporter une dimension morale, bien entendu. S'il y a bien un lieu où on va vivre les valeurs chrétiennes de justice, de vérité, etc., c'est quand même bien dans l'Église. Et l'Église va nous apporter aussi toute la dimension spirituelle dont nous parlerons demain, parce que ce processus de changement de comportement, de sortie de dépendance, de sortie de l'esclavage de la société dans laquelle on fait, nous n'y arriverons pas tout seuls si nous ne sommes pas épaulés par notre Seigneur. Vous voyez ? Et donc, vous voyez pourquoi le sujet de votre camp est particulièrement pertinent, tant en tant que sujet complètement d'actualité pour notre siècle présent, que fantastique opportunité de présence de l'Église dans le monde et opportunité d'évangélisation. À tout à l'heure.